Te souviens-tu d'avril 2020? Sans doute pas. Placé sur l'échelle de ta jeune vie, avril est déjà pour toi un passé très lointain. Ce n'était que le deuxième avril que tu vivais. Tu ne savais pas encore courir, retirer tes chaussures, te brosser les dents, dire ton âge, me prendre les objets des mains en clamant « moi », l'œil colère que je pense seulement à braver ton autonomie naissante. Tu commençais à refuser la bouillie pour manger des morceaux. Peu à peu, tu développais un vocabulaire tout personnel que ton père et moi nous flattions de comprendre. Tu commençais à quitter le règne animal pour devenir enfant. J'ai toujours aimé les mois d'avril. Roger, ton arrière-arrière-grand-père, était né un 1er avril. Je pense très souvent à lui, pourtant mort il y a 26 ans déjà. Il était à l'image de sa date d'anniversaire, d'une jovialité bout en train, en dépit de la guerre, de ses poumons malades, du stalag et de sa femme. Il était bel homme, d'une carrure massive, et il se disait dans le village que la coiffeuse et la boulangère n'étaient pas insensibles à son charme, et lui au leur. Il aimait le vin, les myosotis et les hirondelles. Il avait, du temps de sa jeunesse, monté un groupe de musique baptisé « l'Orchestre Rouge », dans lequel il jouait de l'accordéon. Je n'ai jamais su si l'appellation disait quelque chose de ses convictions politiques. Dans la famille, on ne parlait jamais de politique, ces choses-là étaient bonnes pour les autres, les puissants, les mieux-nés, les cultivés. Nous, on se contentait d'enchaîner les journées sans penser le futur, ni réfléchir le passé. Peut-être est-ce pour cela que je me souviens de ce que Roger avait dit un jour en me regardant. « Elle ira loin ». Je voulus y voir une prophétie que je fus bien seule à entendre. Roger est mort un mois de mars. J'avais 15 ans, on ne m'en a rien dit. Pour me protéger, me fut-il expliqué lorsque je le découvris plus tard. Je n'ai jamais cru à cette explication. Qu'importe, et tant mieux. Me cacher sa mort, m'exclure du rituel de l'enterrement, le fire devenir à mes yeux immortel. Mais je digresse. Quoique, j'espère que tu connaîtras autre chose qu'à un quotidien éthique, sans héritage ni espérance. Tu ne te souviens sans doute pas d'avril 2020, et d'ailleurs, moi aussi j'ai d'abord peiné à me le remémorer. C'est que ce mois fut hors du temps, hors du monde, tellement irréel qu'il pourrait presque n'avoir jamais existé. Nous étions à Toulouse, toi et moi. J'y avais accepté quelques mois plus tôt un emploi dans l'espoir de nous offrir une vie plus douce. Mais elle tardait à se réaliser. Ton père n'avait pas obtenu de mutation et était resté à Paris, nous laissant seuls dans une région où je ne connaissais personne. Je me sentais à la fois isolée et vulnérable, toujours sur la corde raide, à devoir à la fois m'occuper de toi et prendre en main un nouveau travail. En mars, la prise de conscience de l'épidémie qui approchait allait grandissante. Le vendredi d'avant, l'annonce de la fermeture des lieux publics et de ce qui allait être le confinement, je n'aime pas ce mot, je t'expliquerai pourquoi. Sous le coup de l'intuition, j'ai annulé l'ensemble de mes rendez-vous à venir et j'ai rapporté chez moi l'ordinateur que mon employeur mettait à ma disposition. J'ai passé plusieurs commandes pour me faire livrer l'essentiel. Des dizaines de bocaux, de compotes, de petits pois, de la lessive, du produit vaisselle, du papier toilette, du sopalin, de la crème de marron, du riz, des pâtes, des conserves de légumes. Dans un autre coin du garage, il y avait aussi des pots de peinture, tout mon matériel de bricolage, ainsi que des coupons de tissu que j'avais achetés à bas prix quelques mois plus tôt. Plus tard, en voyant ces amoncellements, mon voisin avait ricané. Il m'avait demandé si je m'étais préparée pour un siège, puisque d'ailleurs, paraît-il, nous étions en guerre et que le confinement n'était après tout qu'une variante du couvre-feu. Je ne lui avais rien répondu. Sans doute avait-il raison. Mais il ignorait aussi la difficulté qu'il y a à être seul avec un jeune enfant. Et puis, il ne savait rien de mon histoire familiale, qui m'a inculqué l'incertitude et la fragilité des lendemains contre lesquels il faut se prémunir au cas où. Bien vite, on ne parla plus d'épidémie, mais de pandémie. Chaque personne, chaque animal, chaque objet, chaque surface, tout jusqu'à l'air, se vit suspecté d'être le vecteur du virus. Ce n'était plus seulement l'autre qui devint l'objet du soupçon, mais le monde entier. Les frontières nationales furent fermées, il devint interdit de se déplacer d'une région à une autre et même de sortir de chez soi plus d'une heure et plus d'un kilomètre, sauf raison impérative et dûment justifiée. Voilà que nous nous retrouvions enfermés dans un jeu de poupées russes. Dans un appartement, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, dans son pays. Chaque soir, à 19h30, les chiffres des morts et des mourants étaient donnés. On découvrit rapidement qu'ils étaient faussés. Nos aïeux placés dans des mouroirs payés à prix d'or crevaient comme des mouches dans une indifférence si absolue qu'ils ne furent d'abord même pas comptabilisés parmi les victimes de la pandémie. Mais peu à peu, les mensonges furent mis au jour. Le fiasco des masques allait-il rester dans les mémoires au même titre que le nuage de Tchernobyl ? À l'angoisse du présent s'ajoutait l'angoisse du lendemain. À la crise sanitaire, on le savait, allait suivre une crise économique et une crise sociale, parce qu'évidemment, ce serait sur le dos des travailleurs que des économies de salaires et d'embauches seraient faites. Même la baisse de la pollution constatée là où le confinement avait imposé une pause dans la frénésie consumériste ne parvenait pas à me réconforter. Je me disais que tout finirait par reprendre comme avant. Moi, dans cette conscience du pire, je savais ma chance. J'étais en bonne santé et pour la première fois de ma vie, je me sentais à l'abri. J'avais réussi à m'extraire de la précarité professionnelle et, chose plus incroyable encore à mes yeux, de la précarité amoureuse. Je me sentais en sécurité chez moi, à l'écart de ce monde devenu encore plus dangereux qu'il ne m'avait toujours semblé, d'une menace d'autant plus inquiétante qu'elle était diffuse, invisible, indéfinissable, imprévisible, peut-être même irrémédiable. Durant tout le mois d'avril, la France fut en confinement. Mois du confinement et de la contagion mondiale, il fut aussi pour moi celui du bonheur. Un bonheur qui, si je devais le dessiner, serait un point de lumière au milieu d'une page noire, en écho à cette photographie à la fois belle et terrible du père donnant un bain à ses enfants riant aux éclats dans le désastre des ruines de Gaza. Laisse-moi te parler de ces jours que nous avons vécus. Dès le premier jour d'avril, ton père put nous rejoindre à Toulouse, où il allait rester jusqu'en mai. Il fit beau, je crois, tout le mois d'avril. Dans le calme plat de cette météo sans ombre, chaque jour était pareil au précédent. Ton père se levait le premier. Il préparait ton biberon et notre café. Je vous retrouvais un peu plus tard sur la terrasse chauffée par le soleil. Je plissais les yeux vers le balai des hirondelles qui piaillaient au-dessus de nos têtes. Je passais la matinée à cuisiner et à bricoler. En avril, j'ai passé plus de temps que jamais à scier, poncer, peindre, coller, clouer, visser, fixer, raboter, assembler. Ainsi qu'à jardiner, du moins autant que le permettait notre petite terrasse. J'ai semé, bouturé, taillé, rempoté, dans l'espoir de plus tard récolter. Le jardinage, même le plus modeste, je te l'apprendrai, rend autant sa dimension positive. Chaque jour qui passe n'est plus seulement la marche vers le vieillissement, il est aussi le temps de la maturation des fruits semés. Après le déjeuner, nous faisions une sieste, puis nous allions nous promener vers l'écluse. Nous faisions toujours peu ou prou le même parcours sans jamais nous lasser, au contraire. Chaque journée se devait être similaire à la précédente. Puis l'on rentrait, on jouait, on te lisait tes petits livres. Je ne lisais plus rien d'autre. Et je me mettais à des travaux de couture qui me procuraient un délassement inégalable. J'ai créé quantité de masques, de vêtements pour toi, de coussins et de rideaux. À 20h, nous nous mettions à la fenêtre pour applaudir les soignants, t'expliquais-je les premières fois. Mais bien vite, le rituel changea et nous nous mîmes à attendre 20h que la voisine du rez-de-chaussée annonçait à coups poussifs de cornes de brume pour saluer les voisins, échanger quelques mots sans enjeu et nous donner rendez-vous au lendemain. La journée était finie et une similaire se mettait en germe durant la nuit pour éclore, tout aussi radieuse au petit matin. En avril 2020, le temps a, pour ainsi dire, disparu. Il n'y eut plus ni lundi, ni dimanche, ni début, ni fin de mois, et sans doute est-ce pour cela que j'ai d'abord peiné à me le rappeler. En avril, je connus le bonheur du moment présent, du moment strictement présent, délibérément, consciemment, ouvertement, présent, tant le futur était incertain et angoissant. En avril, je vécus avec toi l'enfance innocente et confiante que je n'avais pas eue. En avril, le confinement nous offrit la possibilité de vacances hors du monde et de ses cortèges de malheur. En avril, nous nous repliâmes sur une île, notre île, ce qui était dans le fond ce que j'avais toujours voulu vivre. Et d'écrire cela, je comprends d'où me vient mon goût pour les îles, destination privilégiée de mes voyages. En anglais, confinement se dit « lockdown », l'enfermement. Le terme est carcéral et pourtant je le préfère à son équivalent français par la proximité orthographique et phonétique entre « lock » et « luck ». Oui, à mes yeux, il n'y avait qu'un pas entre la mise en confinement et la chance, celle d'être épargné par la laideur du monde. Et chaque fin de journée, ton père et moi prîmes l'habitude de dire une fois couchés « En voilà une que le malheur n'aura pas eue ». Je me souviens de notre première sortie d'avril. J'avais décidé de t'emmener au bord du canal de Brienne, où nous allions parfois, avant le confinement, voir les canards et les canetons. Sur le chemin, le silence et le vide des allées me frappèrent. Il n'y avait aucune voiture, aucun passant, aucun bruit, tout jusqu'aux immeubles semblait avoir été déserté. Ce calme inhabituel fit naître en moi une sourde inquiétude. Nous nous dirigeâmes vers le pont. De loin, j'aperçus une masse sombre en plein milieu du trottoir, cloaque incertain au relent de malheur. Je te pris d'autorité dans les bras pour t'en empêcher la vue. C'était un rat. Un énorme rat crevé que des charognards se disputaient. Ses entrailles, ses boyaux, toute une mélasse de chair et de sang se vidaient sur le bitume. Je déviai aussitôt de ma route, de la charogne, tu ne vis rien, et sans doute non plus ne sentis-tu rien de mon malaise. C'est que, dans le lointain, s'annonçait un vrombissement qui fit s'illuminer de joie ton regard. « Popotaire ! Popotaire ! » te mis-tu à clamer. L'hélicoptère du SAMU 31 filait vers Purpan. Avec toi, je me mis à pousser des exclamations enjouées. Et une fois l'hélicoptère et sa funeste rumeur hors d'oreille, nous entonnâmes « Pirouette, cacahuète, pirouette, cacahuète !» Puisses-tu garder le plus longtemps possible cette aptitude à la poésie, cette hygiène du bonheur, seule forme de résistance à la laideur du monde et à la désespérance ?